franceinter.fr. Le journal vous est présenté par Yves Decamp. Bonjour.
Bonjour. Belfort, ville morte, toute la population est appelée à se mobiliser cet après-midi contre le transfert annoncé de l'usine Alstom. Les commerces devraient baisser le rideau pendant une heure. La France ne sera pas un pays de campement. François Hollande, en visite dans un centre d'accueil et d'orientation pour migrants, défend la politique d'humanité et de responsabilité du gouvernement. Qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas, les proches de victimes de l'attentat de Nice sont reçus en ce moment même par le pape François, qui tenait à leur manifester son soutien. Dans ce journal également, le droit de suite du samedi, retour sur le double meurtre de Montigny-lès-Metz, c'était il y a tout juste 30 ans, après la mise hors de cause d'Henri Leclerc. C'est un nouveau procès de Francis Holm qui se prépare. Invité de ce journal, Maître Beaupetit, l'avocate de Chantal Bénin, la mère de l'un des jeunes garçons assassinés. Et puis la prescription culturelle de ce samedi, un concert au théâtre de l'Athénée à Paris qui rouvre ses portes ce soir après rénovation. Montrer que la colère monte à Belfort, la mobilisation devrait être importante tout à l'heure en soutien aux salariés d'Alstom, dont l'entreprise, on le sait, doit être transférée en Alsace. Pour la ville de 50 000 habitants, la perte de l'un de ses fleurons et de ses 480 emplois serait une catastrophe économique. Les entreprises, les artisans, les commerçants sont appelés à se joindre au mouvement. Les commerçants qui fermeront boutique de 14 à 15 heures, à l'heure du grand rassemblement sur la bien nommée Place de la Résistance, Grégoire Le Callot.
Le ton est donné ici par cette grande inscription posée au pied du Lion de Belfort, le célèbre lion de Bartholdi taillé dans le roc de la citadelle. Soutien aux Alstom, peut-on lire. Et comme un écho, elle est reprise sur presque toutes les vitrines des commerçants du centre-ville. Alors malgré le grand soleil, presque toutes les boutiques seront fermées entre 14 et 15 heures pour l'opération Ville Morte, comme celle de Laurence, gérante d'un magasin de vêtements.
C'est la grosse journée de la semaine et puis on a quand même une perte sur ce jour-là. Mais bon, il vaut mieux perdre un petit peu sur un jour que sur plusieurs années, quoi.
Presque en face, dans la rue aux immeubles colorés, Liliane tient un magasin de mode féminine, inquiète pour l'avenir de son entreprise.
On espère que ça va donner quelque chose, hein, parce qu'on est tous solidaires. Moi, j'ai plein de clientes qui travaillent, ou leur mari ou elle, qui travaillent à l'Alstom. Déjà qu'en ce moment, c'est très dur. Hein. C'est sûr que c'est mauvais. Hein.
Outre la menace économique, Alstom, c'est aussi le paysage des Belfortins, leur histoire, comme Philippe qui lit l'Est républicain devant son café du matin.
Mon père y a travaillé pendant plus de 40 ans, donc je suis intéressé par l'affaire. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a travaillé à l'Alstom, directement ou indirectement, donc tout le monde est touché. Il y a beaucoup de monde cet après-midi, je pense.
Et la menace sur l'usine d'Alstom lui rappelle un souvenir douloureux, la fermeture de l'usine informatique Bull en 1991, 1200 emplois supprimés. Et pour certains commerçants de Belfort, une perte de chiffre d'affaires de 30%.
Voilà, c'est de cette usine de Belfort qu'était sorti le premier TGV en 1971. Le gouvernement qui négocie avec Alstom annonce pour les prochains jours des solutions permettant le maintien de l'activité sur le site. L'humanité, la dignité et la responsabilité. François Hollande, en visite dans un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants à Tours, défend la politique du gouvernement sur ce dossier des réfugiés qu'on ne peut obliger à quitter Calais, dit-il, sans leur offrir des solutions de rechange. Le président de la République qui se rendra justement lundi à Calais et qui voudrait dépassionner ce débat réveillé par les candidats de la primaire à droite, Mathieu Mondoloni.
François Hollande est venu voir à Tours ce qu'il ne verra pas à Calais, les réfugiés. Ils sont 48 dans le centre d'accueil et d'orientation qu'a visité le chef de l'État ce matin pendant une grosse demi-heure. 48 venus de la jungle et logés ici en attente du traitement de leur demande d'asile dans des conditions bien meilleures, a répété François Hollande.
J'ai discuté avec ces réfugiés. Ils m'ont tous dit que c'était bien préférable, c'était même pas d'ailleurs comparable avec ce qu'ils avaient pu vivre à Calais, dans cette lande, dans ce camp.
Il faudra accueillir les 9000 réfugiés de Calais partout en France, a répété François Hollande, n'en déplaise à la droite.
La France, c'est pas une France où on trouvera des campements. Ça a été depuis trop longtemps une solution de facilité, qui d'ailleurs a été engagée il y a bien des années, avec aussi négociations d'accords qui aujourd'hui sont remises en cause, mais qui ont été signées par les mêmes qui aujourd'hui voudraient les contester. Il y a des règles qui doivent être respectées, mais on ne démantèle pas un camp sans qu'il y ait des solutions.
Une réponse à Laurent Wauquiez, à l'origine d'une pétition et qui brandit le spectre de mini-Calais dans les régions. Il n'y en aura pas, a réaffirmé François Hollande. À Tours, Laurent Lucas, Mathieu Mondoloni, France Inter.
Et au total, pour l'instant, 140 centres d'accueil ont été ouverts en France dans 80 départements pour l'accueil de quelque 9000 migrants venus de Calais. Une question des réfugiés qui obstrue le débat politique et l'inonde de façon excessive. Pour le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, il regrette ce qu'il appelle les postures des candidats aux primaires de la droite. Les ouvriers d'Alstom ne se demandent pas si leurs ancêtres étaient gaulois, dit-il. Allusion, bien sûr, aux propos de Nicolas Sarkozy. Et pendant ce temps, à Reims, trois passeurs d'une vingtaine d'années, originaires du Kurdistan irakien, ont été interpellés et incarcérés pour avoir convoyé des migrants de Calais jusqu'à Reims, où ils étaient chargés dans des camions en partance pour l'Angleterre, camions repérés sur les aires d'autoroute. Un seul des passeurs a pour l'instant reconnu les faits, avant d'avoir fait passer parfois des familles entières qui pouvaient verser jusqu'à 6 000 $. Mathieu Bourrette, le procureur de Reims, au micro de Sylvie Bassal.
L'un des passeurs a effectivement reconnu l'intégralité des faits, en plus des éléments d'investigation qu'on avait contre lui. Il a fait savoir aux enquêteurs que sur 5 mois, travaillant 5 jours sur 7, emmenant une vingtaine de personnes chaque jour, il avait pu faire entre 1500 et 2000 personnes qui avaient transité entre la jungle et la région marnaise.
C'est véritablement une organisation mafieuse.
C'est effectivement une organisation mafieuse parce qu'elle est internationale, parce qu'elle a des ramifications au Royaume-Uni, en Europe, en France, dans le Kurdistan irakien, parce qu'on demande des sommes extrêmement importantes pour ces personnes et parce que ces personnes sont traitées comme du bétail, comme des objets. On n'hésite pas à les mettre dans des camions frigorifiques, on n'hésite pas à leur faire prendre des risques pour réussir à leur faire passer la frontière.
Les trois passeurs comparaîtront lundi pour aide au séjour irrégulier en bande organisée. Ils risquent 10 ans de prison. Une nouvelle série de frappes aériennes sur Alep ce matin, sur la partie que contrôlent encore les insurgés. Depuis hier, l'aviation syrienne et son allié russe multiplient les bombardements en préparation d'une possible offensive terrestre. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 47 victimes au moins et de destructions considérables. Même les centres de secours ne sont pas épargnés. 2 millions de personnes sont aujourd'hui privées d'eau dans Alep. Aux États-Unis, situation toujours très tendue à Charlotte en Caroline du Nord, où des centaines de manifestants se sont encore rassemblés hier soir contre les violences policières visant des Noirs. Ils réclament que soit rendue publique une vidéo tournée pendant l'interpellation d'un père de famille de 43 ans, tué justement par un policier. Et puis aux États-Unis également, mais sur la côte ouest à Burlington, dans l'État de Washington, un homme armé a tué 4 personnes, 4 femmes, dans un centre commercial avant de prendre la fuite. Des dizaines de familles en deuil chez le pape François. Les familles des victimes de l'attentat de Nice ont été reçues, sont reçues en ce moment même par le souverain pontife à Rome. Familles et soutien de toute confession auxquels le pape tenait à manifester sa solidarité en leur apportant autant que possible un peu d'apaisement, Mathilde Imberti.
Le pape reçoit dans une vaste salle du Vatican, estrade en marbre blanc, mosaïque multicolore au mur. Les proches des victimes de l'attentat sont vêtus de noir. 58 familles précisément assiste à l'audience. Des centaines de Niçois anonymes ont également fait le déplacement. Solange est venue à Rome avec sa fille de 7 ans, présente le 14 juillet sur la promenade des Anglais.
C'est pour elle aujourd'hui que je suis là. Elle a été obligée de passer au milieu de blessés et de décédés. Et elle a été doublement traumatisée par cette vision. Elle est aussi ici pour essayer de refermer la boucle.
Christian Estrosi remet 86 œillets au pape, la fleur emblème de la ville de Nice. 86 comme le nombre de victimes de l'attentat. Soyez tous assurés de ma compassion et de ma proximité, déclare le pape François. Un chœur entame l'hymne niçois, Nissa la Bella, tandis que le chef de l'église catholique salue individuellement les proches des victimes. Certains sont athées, d'autres croyants et de toute confession. Un tiers des victimes de l'attentat de Nice étaient musulmanes. Les enfants de Fatima Chahiri, notamment, sont dans l'assemblée. Leur mère a été la première à mourir le soir du 14 juillet. Le pape François, dans son discours, se réjouit de voir que les relations interreligieuses sont bien vivantes, un signe d'espérance selon lui. Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Pour les croyants, c'est une rencontre exceptionnelle, souligne la Fédération nationale des victimes d'attentats. Pour les autres, un trésor d'empathie qui transcende les religions. Au Gabon, la capitale Libreville était quadrillée par les forces de l'ordre ce matin après la validation cette nuit par la Cour constitutionnelle de la réélection d'Ali Bongo. Aucun incident à signaler et pour cause, les accès au centre-ville ont été barrés et tous les véhicules fouillés. Au Royaume-Uni,
pas de changement à la tête du parti travailliste. Le très contesté Jeremy Corbyn, dont certains dénoncent la dérive gauchiste, a été reconduit par les militants à l'instant même. Les près de 550 militants du plus grand parti d'Europe, Antoine Gignot.
Oui, c'est un véritable plébiscite, presque 62% des voix. Owen Smith, le concurrent de Jeremy Corbyn, est loin derrière. Et les premiers mots de ce désormais conforté leader sont pour les militants. Ce sont eux qui se sont massivement inscrits sur les listes du parti ces derniers mois. Eux qui ont aussi soutenu ce programme très à gauche, malgré les réticences des députés. Cet été, les parlementaires travaillistes ont approuvé une motion de défiance vis-à-vis de Jeremy Corbyn avec des démissions massives parmi les cadres. Il va maintenant falloir reconstruire, réunir la famille, explique Jeremy Corbyn, pour s'attaquer au véritable ennemi, le gouvernement conservateur de Theresa May et le leader de ce qui est désormais le plus grand parti d'Europe. Vous l'avez dit, fustige l'austérité, des rémunérations trop faibles. Il met en avant les 6 millions d'ouvriers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Alors est-ce que ça suffira pour réunifier une famille de gauche très divisée? Pas sûr. Les travaillistes, en tout cas, ne veulent pas prendre le risque, comme dans les années 80, de diviser l'ensemble des électeurs au risque de perdre les élections en 2020.
Antoine Gignot en direct de Liverpool au congrès du Parti travailliste. À 13h11, le droit de suite du samedi consacré cette semaine à l'affaire de Montigny-lès-Metz, le meurtre de deux enfants retrouvés sur un talus SNCF. C'était il y a 30 ans, presque jour pour jour. Un adolescent de 16 ans, Patrick Dils, avait été arrêté puis condamné deux fois avant d'être acquitté et blanchi. Puis ce fut le procès de Francis Holm en 2014, le routard du crime, convaincu de s'être trouvé là au moment du drame. Procès interrompu après de nouveaux témoignages incriminant Henri Leclerc, que la cour d'instruction de la cour d'appel de Metz a mis hors de cause début juillet. On en est là, Rachel Noël.
Il y a 10 ans, c'est l'ombre de Francis Holm qui avait relancé le dossier. En 2014, c'est celle d'Henri Leclerc qui a tout chamboulé. Son nom est cité par Francis Holm, mais aussi par des témoins. Un cheminot qui dit l'avoir vu, le t-shirt portant des traces de sang, et une claire de notaire devant laquelle il a joué une scène racontant comment il avait attrapé les enfants. De témoin, Henri Leclerc se retrouve dans la peau d'un accusé jusqu'à ce qu'en juillet dernier, la chambre d'instruction décide qu'il n'y a pas de charge suffisante pour le poursuivre. Pour son avocat, maître Thomas Hélène Brandt, les fameux témoins de dernière minute ont beaucoup à se reprocher.
Ce sont des témoignages grand-guignolesques de gens peu sérieux qui, loin d'être venus au secours de la justice, sont venus pendant 2 ans brouiller les cartes, pendant 2 ans faire souffrir encore les parents des victimes ne savent toujours pas la vérité, qui sont toujours dans l'attente d'un procès.
Les familles des victimes, elles sont désabusées. Certaines, comme la famille Bécriche, n'en attendaient d'ailleurs pas grand-chose. Dominique Rondu, l'avocat de la grand-mère, Ginette Bécriche.
Moi, j'attends rien de ce procès. Franchement, je n'y attends rien. 30 ans après les faits, on en est toujours là et j'ai bien peur que l'on ne sache jamais la vérité.
En revanche, Chantal Bénin, la maman de Cyril, s'est pourvue en cassation. Si elle obtient gain de cause, Henri Leclerc pourrait se retrouver dans le box des accusés. Dans le cas contraire, il se sera passé 2 à 3 ans de plus pour les familles des victimes. Elles vivront sans doute en 2017 leur 5e procès consacré au drame qui a marqué leur vie.
Rachel Noël, invitée de ce journal, maître Dominique Beaupetit, avocate de Chantal Bénin, justement, la maman de l'un des jeunes garçons. Bonjour.
Bonjour.
Vous pensez, vous aussi, que ce procès de Francis Holm va s'ouvrir en 2017 et qu'il sera seul ou que Henri Leclerc sera à ses côtés?
J'aimerais qu'il y ait Francis Holm et Henri Leclerc dans le box des accusés. C'est la raison pour laquelle Madame Bénin s'est pourvue en cassation contre le dernier arrêt de la chambre d'instruction.
Parce que, de votre point de vue, ces témoignages qui mettaient en cause Henri Leclerc sont recevables.
Je pense que, pour le moins, c'est à la cour d'assises d'en décider. Le principe d'un procès criminel, eh bien, c'est de faire venir les témoins et de pouvoir les cuisiner, entre guillemets, si vous me permettez l'expression. Et je pense qu'après, il appartiendra à la cour d'assises de prendre une décision.
Alors, un nouveau procès en perspective après 30 ans, difficile à vivre, j'imagine, pour les familles.
C'est très difficile pour Madame Bénin. Mais vous savez, Madame Bénin, elle s'est formée une carapace, ça fait 30 ans qu'elle lutte contre les carences, contre l'incompétence, contre les erreurs, contre... Je veux dire, ce dossier, c'est un véritable fiasco judiciaire. Et puis, ce qui l'anime, c'est la recherche de la vérité. Elle a perdu son enfant, elle voit cela de sa place de maman, et elle trouve que c'est assez effrayant le peu de considération en fait qu'on peut avoir pour ce dossier, à vouloir sans cesse le mettre au placard. Et elle est là à maintenir ses efforts pour pas que le dossier justement soit mis dans un placard.
Parce que dans cette situation, on se dit qu'on ne saura jamais de toute façon, ou bien on garde l'espoir malgré tout de connaître un jour la vérité.
Elle garde l'espoir de connaître la vérité, et je pense qu'elle a vraiment raison, puisque vous parlez de l'épisode, appelons ça comme ça, Patrick Diels, mais toute cette période où Patrick Diels a été accusé à tort, le dossier, il existe, les procès-verbaux sont là, et dans cette partie de la procédure, il y a des éléments qui sont quand même troublants à l'encontre et de Francis Holm et d'Henri Leclerc.
C'est votre intime conviction, vous qui suivez le dossier depuis le début.
Depuis une douzaine d'années, je suis l'avocat de Madame Bénin depuis l'acquittement de Patrick Diels. Vous savez, quand on se plonge dans un dossier comme celui-là, on ne sait pas trop ce qu'on va y trouver. Mais j'y ai quand même trouvé tout de suite des choses qui m'ont permis de dire, Madame, il ne faut pas baisser les bras. Dans ce dossier, il y a des éléments qui permettront de connaître la vérité.
Alors l'un de vos combats, vous l'avez raconté dans un livre, hein, c'est la vie en prison, notamment des femmes. Vous considérez que ça détruit plus que ça ne prépare à la réinsertion?
Ah, la prison, là en ce moment, j'entends qu'on va construire des places supplémentaires de prison, ça me hérisse d'entendre ça. Il y a assez de places en prison, je crois que l'objectif ce serait plutôt de s'occuper de ceux et celles qui occupent ces places. C'est ça l'urgence.
Enfin, il y a assez de places, il y a surpopulation.
Ah, écoutez, on pourrait en discuter, on n'a pas le temps là, mais je suis en train de creuser cette question-là, et il y a des rapports qui sont rendus qui disent pas la même chose. Ne serait-ce qu'à Metz, où la maison d'arrêt est effectivement surpeuplée, mais le centre de pourpeine aménagé, il y a des places libres. Ça veut dire qu'on pourrait sortir des personnes de la maison d'arrêt, leur mettre un bracelet ou les mettre en semi-liberté ou en libération conditionnelle, et ça marcherait aussi.
Quoi qu'il en soit, la prison n'est pas toujours la solution, c'est ce que vous voulez dire.
Non, et là, je m'intéresse beaucoup à la situation carcérale des femmes, parce que, et d'une, c'est un sujet tabou, et de deux, personne ne s'y est intéressé. C'est très rare qu'il y ait un universitaire qui travaille sur l'incarcération des femmes. Alors là, j'ai là aussi, vous allez me dire que je suis optimiste, mais Madame Adeline Hazan, qui est la contrôleuse des lieux de privation de liberté, depuis qu'elle est en fonction, s'intéresse particulièrement à la condition des femmes incarcérées.
Voilà, c'est un livre qui s'appelle Quartier de femmes, signé donc Dominique Beau-Petit. Merci beaucoup d'être venu. La mise en examen probable d'Anne Diana Klein, la sœur des djihadistes Fabien et Jean-Michel Klein, a été déférée ce matin devant un juge antiterroriste. Elle avait été arrêtée mardi soir à Roissy en provenance de Turquie. Et puis Bernadette Chirac a quitté l'hôpital, l'épouse de l'ancien président, est rentrée chez elle ce matin après 4 jours de repos. Allez, deux salles parisiennes qui rouvrent au public après travaux ce même soir. La salle Pleyel qui a troqué la musique classique pour un concert de Benjamin Biolay. Et puis le théâtre de l'Athénée Louis Jouvet qui propose en ouverture de sa saison la symphonie fantastique de Berlioz, revisitée par la formation Le Balcon sous la direction de Maxime Pascal. Le morceau a fait l'objet déjà d'un disque avec en prime, en téléchargement, une version binaurale, Jacqueline Petroz.
Alors Le Balcon est un ensemble musical en résidence à l'Athénée depuis 2014. Il décloisonne les genres et fait entrer dans la musique dite classique les nouvelles technologies. Même le coffret du disque est original, avec des dessins psychédéliques et très BD de Baptiste Virou. Alors ce soir, Maxime Pascal dirige cette fameuse symphonie fantastique, réécrite par le jeune compositeur Arthur Lavandier. Accent jazzy, fanfare et corps des Alpes. Alors attendez, avant de crier au sacrilège, les explications de Maxime Pascal.
Moi, j'avais demandé à Arthur Lavandier de travailler sur une nouvelle version avec beaucoup moins d'instruments et avec des instruments qui n'étaient pas dans la version originale, notamment la guitare électrique, les synthétiseurs, maître électronique. Il a fait ça assez librement, assez instinctivement. Il a changé vraiment à des moments la mélodie, les harmonies. Il y a des moments où il a carrément inventé la musique, quoi. C'est d'ailleurs dans la tradition de Franz Liszt qui, lui, paraphrasait, arrangeait. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'est-ce qu'un texte d'il y a plusieurs siècle peut nous raconter et qu'est-ce que ça peut faire naître sous le crayon d'un compositeur aujourd'hui.
Et alors cette version binaurale sur internet, Jacqueline, qu'est-ce que c'est?
Alors dans le coffret du disque, vous allez trouver un code pour télécharger la musique. On met son casque, ce que je conseille aux auditeurs de faire en nous écoutant, et on a vraiment l'impression d'être immergé dans l'orchestre. Maxime Pascal.
C'est une technologie qui permet de créer une spatialisation, ce qu'on pourrait appeler une 3D sonore, et on entend le son de manière complètement sphérique tout autour de la tête, quoi. On entend le son qui peut venir d'au-dessus, d'en dessous, de derrière, de devant. Avec l'oreille, on peut regarder à des endroits différents. Et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a plus de choses. C'est assez étonnant d'ailleurs comme technologie, ça ouvre l'espace d'une manière incroyable.
Alors voilà de quoi se remplir les oreilles, Yves.
L'Athénée qui décompose aussi sa nouvelle salle. Pas de siège au parterre et des places à 10 euros en vente une heure avant le concert.
Le journal de 13h qui se termine en musique. Et merci Yves Decamp, on vous retrouve ce soir à 19h.